BFM Business et la Tribune présentent les experts. Raphaël Legendre.
Allez, il est 9h, passé de 57 minutes, on est de retour pour la seconde partie des experts, avec toujours autour de la table Jean-Hervé Lorenzi, Ludovic de Sauté et Nathalie Janson pour parler de cet ouvrage à sortir la semaine prochaine, Jean-Hervé. C'est ça, hein, Jean-Hervé Lorenzi et votre comparse Alain Villemeur pour ce nouvel ouvrage, Guerre et paix entre profit et salaire. C'est le sous-titre qui est très important, pour une révolution fiscale. Ça me rappelle... un autre économiste, Jean-Hervé. Non, un certain Thomas Piketty, Camille Landais, non, Manuel Ricardo, XVI, qui avait publié pour une révolution Ricardo, fiscale.
Ricardo.
Aussi, d'ailleurs, aussi.
Hein, il y a on se prétend très ricardien.
Quelques années. Quelques voilà. années
non, non, là, je parle de choses sérieuses. Pas
il
de
sort aux éditions Odile Jacob, le sous-titre donc, pour une révolution fiscale. Vous dites que la politique de l'offre menée par Emmanuel Macron... c'est finalisé par un échec, finalement.
Non, l'expression est pas... Mes deux camarades économistes vont bien comprendre. La grosse difficulté de l'économie, la grande difficulté de la croissance, puisque le critère à la fin, c'est la croissance.
Oui.
Stable
et
sur une longue durée, c'est la capacité d'équilibrer une offre qui correspond à des investissements, donc à des profits, donc à une épargne qui investit, et de l'autre côté, une demande qui, ce qu'avait très bien compris Ford, il y a plus d'un siècle.
À peu près.
Oui. Et donc, ce que on montre, c'est que quand on prend les États-Unis entre 1909 et 2000, ils ont une croissance, y compris avec les chocs de guerre, ils ont une croissance qui est forte et avec ce qu'on a essayé de montrer. Moi, je suis très modeste. Hein, c'est juste une. Il y a sûrement un tas d'erreurs et de critiques à faire sur ce bouquin, mais. On montre que, on voit que la croissance a été extraordinairement forte avec un pourcentage entre profit, investi
oui.
et demande réalisée
oui.
Qui est de 2/3. Alors on le montre dans un modèle qui, comme tous les modèles, peut être critiqué. Tous les modèles se révèlent.
Quand on dit demande, c'est salaire, quoi. C'est la répartition entre profit et salaire.
Alors après, simple. Il faut que les profits, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, chez les vieux, le profit, il va dans une maison qu'on achète, la résidence secondaire ou le truc, et il va pas investir dans les technologies, les composants.
Chez un vieux français.
Voilà.
Un vieux européen.
Ouais.
C'est des pays. C'est un problème européen parce que je veux dire c'est. Alors puis c'est un système financier qui est pas très porteur de non plus de ça. Et donc si on part de ces 2/3 pour arriver à ces 2/3 qui sont la seule base. Hein, bon, il se trouve que c'est assez bien démontré, mais enfin, on pourrait montrer que c'est pas parfait. Peut-être pas 2/3. Bon, exactement.
Et
pour y arriver, il faut une fiscalité. Et ce qu'on montre, c'est, on l'a vu tout à l'heure, c'est exactement ce qui a été dit, donc il n'y a plus rien à ajouter. Il y a le crédit impôt recherche, mais alors là, c'est du pour. Puis on transfère de l'autre côté, et alors le crédit impôt recherche, on dit c'est terrible, c'est 10 milliards, mais on en pique 100 en impôt de production. Donc tout ça est absurde. Mal foutu, et en réalité le mot exact c'est mal foutu. Donc à partir de ça, nous on a pris 8 principes qui permettent de se rapprocher de ce 2/3 pour avoir une croissance on a une croissance potentielle qui est faible.
Oui.
Comme chacun sait, croissance potentielle c'est lié au gain de productivité et à l'augmentation de la population active. Les deux sont faibles. Gain de productivité, c'est un peu partout, ça a baissé, partout dans le monde.
Oui.
Enfin, chez nous, c'est quand même très faible.
Investissement
insuffisant, on l'a dit. Et population active, on a un problème absolument majeur, et je termine là-dessus, qui est que les vieux
choc démographique.
Ne sont pas employés, qu'il y a
taux d'emploi trop faible chez les jeunes.
Taux d'activité très faible chez... Alors, c'est des problèmes qui sont des problèmes économiques, mais des problèmes aussi sociologiques. Parce que l'histoire de dire que quelqu'un est inutile à partir de 55 ans, c'est pas descendu du ciel. Que l'idée qu'on n'embauche pas les jeunes, c'est pas non plus descendu du ciel. Oui. Donc, c'est la sociologie d'un pays qui derrière sa fiscalité, exprime au fond l'idée que, Voilà, profitons-en.
Et puis, il n'y a rien d'insurmontable. Hein. D'autres pays arrivent très bien. Donc, en mettant les bonnes mesures, on peut arriver au bon résultat. Nathalie, vous êtes d'accord avec ce constat ?
Oui, même si effectivement, la baisse de la productivité, elle n'est quand même pas partout pareille. Et aux États-Unis, elle est quand même beaucoup moins forte. Parce qu'effectivement, il y a cette forte innovation qui va contribuer à faire augmenter la productivité, y compris dans les services, qu'on critique souvent pour une faible productivité. Mais pour le coup, l'IA contribue aussi. Alors, ce n'est pas que le coiffeur va plus vite.
On a du mal à mesurer quand même.
Dans les services, de tout ce qui est services financiers, services consulting, etc., on a des gains de productivité effectivement qui sont bien supérieurs aux États-Unis. Et ça, on voit bien que c'est lié en fait à cette très forte dynamique en fait dans ce secteur. Pour le reste, il est certain qu'en France, on n'a pas de chance puisque au niveau de l'école, il y a des dysfonctionnements et donc les dysfonctionnements de l'école impactent en effet, comme il a été dit, l'entrée en activité des jeunes, puisque comme en fait elles fabriquent des jeunes qui sont pas vraiment désirés sur le marché de l'emploi, forcément ça n'avantage pas le.
C'est ça l'un des problèmes, c'est l'inadéquation entre les formations et les besoins des entreprises.
À partir du moment où on a fait cette volonté d'avoir un certain pourcentage de bac, on a aussi entretenu je pense que la croyance était sans doute déjà là, le fait que les études générales c'était le Graal et que si on n'en faisait pas c'était un échec total et qu'on n'était rien et qu'on n'allait rien faire dans la vie. Donc effectivement c'est des problèmes qui sont très ancrés. On change pas, on va pas devenir des Allemands demain matin, quoi. Ou en fait, en Allemagne, en effet, vous avez une école très imbriquée. Alors moi, je suis pas en train de dire qu'il faut le modèle allemand, mais on a un problème et en tout cas sur l'éducation, il est rarement adressé. C'est-à-dire que ce problème-là, pour le moment, on n'en entend jamais parler. Personne ne veut s'y coller et pourtant, c'est un problème. Les jeunes ne travaillent pas assez. Là, on a mis le prix du repas étudiant à 1 euro. Cette mesure, elle, pour moi, c'est vraiment le symbole de l'échec total. C'est-à-dire que c'est pas ça qu'il faut. Il faut des jeunes qui puissent travailler pendant leurs études. Et c'est pareil, il y a plein de pays où ça existe. En France, on a l'impression qu'un étudiant qui travaille, c'est la fin du monde. Enfin, vous vous rendez compte que quand ils font des entretiens dans les enseignements supérieurs, il y a des examinateurs qui préviennent les étudiants qui ne pourront pas travailler pendant leurs études. Mais on est sur quelle planète ? Il faut que les étudiants travaillent 15 heures par jour.
Il faut se concentrer sur les études.
Non, mais c'est n'importe quoi. Enfin, je veux dire, il y a plein de pays dans le monde où les étudiants travaillent à côté de leurs études et ils font des carrières très belles. Enfin, donc on a un réel problème d'éducation. Ça, c'est au début. Et puis, comme il a été dit, à la fin, effectivement, pour tas de raisons, on pensait qu'à 55 ans, il fallait les pousser. Alors, la bonne nouvelle, parce que Gilles Berset aime bien cette bonne nouvelle, donc comme c'est mon collègue, je vais la relayer. C'est vrai que la nouvelle est plutôt bonne, c'est qu'il disait qu'effectivement, on a quand même une amélioration du taux d'emploi chez les seniors. Voilà, donc c'est la bonne nouvelle. Vous voyez, je suis hyper optimiste.
On l'avait hier sur le plateau de l'Université.
Elle est incroyable.
Voilà. J'adore les vieux.
Le triple Axel n'a plus le moindre...
Exactement.
Bravo. Non, c'est vrai.
L'un des sujets, Ludovic, et c'est l'un des sous-titres du bouquin, c'est comment sortir du travail qui ne paie plus. Aussi, Antoine Fouché a beaucoup travaillé là-dessus. C'est quand même un des sujets aussi.
Ouais, ce que vous dites, Raphaël, est important parce qu'au-delà de la technicité du 2/3, 1/3 et tout ça, c'est-à-dire que le livre, je trouve, pointe plusieurs aspects qui sont des aspects presque sociologiques pour certains.
Bien sûr.
Et hautement politique.
Mais il y a des comptes. D'abord, le ruissellement ne fonctionne pas. Donc ça, c'est un grand constat et je pense que vous l'adressez bien avec Alain parce que c'est, il y a une belle démonstration. Mais ne marche pas dans les conditions dans lesquelles on l'exécute. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas que la notion de ruissellement, c'est pas philosophique, c'est aujourd'hui. Et j'allais dire, ce livre, il traduit une chose. C'est-à-dire, en tout cas, je le ramène sur la position française. C'est que j'ai presque le sentiment quand on le regarde, que la France a un problème de conjugaison, en fait.
C'est-à-dire
c'est un pays qui écrit son économie à l'imparfait, honnêtement. Que ça soit par rapport à la vieillesse, par rapport au fait d'alimenter des choses, des choix qui ont été faits, mais qui sont en train de s'effilocher gentiment, là où on aurait besoin de l'écrire au futur.
C'est un modèle qui est dépassé ?
Il y a des problèmes sur l'innovation, il y a des problèmes sur la R&D, il y a des problèmes sur le fait de miser sur la jeunesse et de lui faire un marchepied, que ça soit bosser pendant ses études, mais aussi de la valoriser, parce que il va avoir des grandes confrontations, on le sait, sur, entre jeunes diplômés et IA, ce qui va être la pire sanction qu'on puisse avoir dans le monde du travail. C'est-à-dire, si on n'arrive pas à faire rentrer les jeunes, s'il n'y a plus de tremplin, c'est-à-dire que tous les petits jobs qui faisaient qu'on commençait en consulting, à faire des rapports pendant 2 ans, 3 ans, à pas dormir, dans les poches ou les yeux, mais qui était l'apprentissage du métier, si tout ça est absorbé demain, ben, on va pas se réveiller à 32 ans consultant un matin, en disant, tiens, ben, au fait, et oui, ça fait 10 ans que j'attends et maintenant je suis consultant.
Et pour avoir des seniors, il faut avoir des juniors. Hein,
ouais, exactement. Donc, il y a vraiment un problème de conjugaison. Et ça fait rire Jean-Hervé, mais c'est après, il y a la question salaire, hein, que je trouve très, très aiguë, parce qu'il y a une vraie, vraie question salaire. Et c'est la question que vous posiez initialement.
Enfin, la répartition profit-salaire, oui.
Je l'ai surligné parce qu'il y a vraiment un chiffre qui m'a marqué dans le bouquin, c'est que sur la période 2017-2025, la rémunération brute des salariés a progressé de moins de 1%. C'est-à-dire que pour doubler son niveau de vie, maintenant, il faut 70 ans en France. Oui, mais c'est comme ça que...
Mais on vit plus vieux, c'est pour ça.
Non, mais tout à l'heure, Jean-Hervé disait, un pays doit avoir des envies. S'il faut raisonner sur 70 ans, l'envie, elle est un peu compliquée.
Oui, et puis on comprend qu'il y a une forme de démotivation.
Je crois qu'on est...
Effet délétère sur la démotivation.
Une fois de plus, tout ça est très critiquable, les chiffres, non, les trucs, etc. Et les mesures qui sont proposées sont... Deux leçons, de mon point de vue. La première, c'est que dans toute cette affaire, c'est moi j'aime bien cette expression de conjugaison au passé. C'est, on est, et on le voit dans les programmes politiques qui commencent à apparaître, incapable de penser un univers qui soit un univers désirable, y compris d'ailleurs dans ce qui était, je reviens sur ma jeunesse, ce qui était une des caractéristiques du modèle français, qui était tout aussi bordélique qu'aujourd'hui. Vous n'imaginez pas que la 4e République était un modèle
tranquille,
mais stabilité. Oui.
Une fille ou un garçon qui rentrait comme non qualifié pouvait espérer que on allait progressivement, s'il était bon, le qualifier, le truc, devenir chef d'équipe et même éventuellement ingénieur maison. Donc il y avait une logique, toute cette logique a complètement disparu. Il n'y a aucune progression. C'est un pays figé.
En même temps, les 30 Glorieuses ont été une parenthèse enchantée dans l'histoire de l'humanité. On n'a jamais connu ça avant et peut-être qu'on ne connaîtra jamais ça après.
Oui, enfin bon, ça veut dire qu'il faut remettre du désir dans ce pays. Oui. Une partie du désir, c'est celui d'être, au fond, la vraie nature du progrès, c'est celle où on permet aux gens de développer leurs qualités, leurs trucs. Alors, ils démarrent selon la formation. Alors,
ça manque dans le narratif politique, là, c'est ce que vous nous dites. Ça peut pas être que de la sueur, du sang et des larmes pour le redressement des comptes publics, les efforts qu'il va falloir faire, c'est donner une perspective.
Et le deuxième sujet, juste avant que je laisse Ludovic, c'est que nous, on a ce qui est très rigoureux dans notre approche, c'est le 2/3, 1/3. Ça, c'est enfin après, on peut discuter du modèle, mais c'est quand même, à mon avis, bien fait. Le reste, il y a 8 principes. Ça veut dire quoi? Il faut retenir, chacun de ces principes peut être critiqué, hein. c'est pas des vérités absolues, loin de là, mais il faut prendre le problème dans sa globalité. C'est-à-dire que ces mesures fiscales qui reviennent, je te prends un petit bout, et je te truc, etc. Ça, c'est des stupidités, c'est inefficace. Les gens l'oublient 2 secondes après. Imaginons à l'instant qu'on bloque qu'on fasse ce que les uns ou les autres souhaitent, baisse la TVA sur les produits pétroliers, etc.
Oui.
Ça coûte une dizaine de milliards.
Oui.
Qu'on va trouver où? J'en sais rien. Alors si, la dernière idée, c'est de supprimer toute l'aide au développement, ce qui est quand même pas, je vais dire, en termes d'image, on peut en prendre un peu, mais supprimer tout, c'est quand même pas... pour les jeunes, c'est quand même pas très excitant comme vision d'un pays. Et donc, c'est la mesure par excellence idiote. C'est-à-dire que on se prend un problème, on a un problème lundi, on résout un problème lundi, un mardi. Donc, il faut mettre à plat notre fiscalité qui n'est pas adaptée à cet équilibre subtil pour trouver des gains de productivité pour ceci, pour cela, offre, demande, et trouver, et essayer d'avoir un dispositif qui ne remettra pas en cause, au fond, l'idée qu'il y a des inégalités, qui ne remet pas en cause, mais il faut qu'on soit compétitif et qu'il y ait une demande. Voilà.
Bon, alors il y a beaucoup d'interrogations qui peuvent naître de le constat que vous venez de poser. D'abord, première question, est-ce qu'une révolution fiscale est possible? Parce qu'on a déjà vu ça. Jean-Marc Ayrault avait essayé, pour sauver sa tête il y a 15 ans, de faire une grande remise à plat de la fiscalité française qui a fait complètement de pchit. Est-ce qu'une révolution, toutes les révolutions françaises sont nées d'une révolution fiscale, mais est-ce qu'une grande remise à plat est possible aujourd'hui, vu le contexte, Ludovic de Sauter ?
Compliqué. Alors, je rebondis à la fois sur la question à Romain Jean-Hervé. C'est-à-dire, tout à l'heure, Nathalie disait que, évidemment, ce qui est détestable, quand on parlait des investissements étrangers, c'est l'incertitude politique et de ça, mais c'est détestable aussi au niveau du citoyen. C'est-à-dire, le citoyen, il se comporte en partie comme une petite entreprise aussi. Hein. C'est-à-dire qu'il n'aime pas aussi être dans l'instabilité. Non, mais c'est une réalité. C'est-à-dire, il y a une perception, on l'a vu là sur le budget, c'est-à-dire, malgré toutes les annonces, disant, en fait, quand même, on va payer plus d'impôts. C'est-à-dire que il y a toujours une notion comme ça où ce pays ne se met pas en mouvement. Sur cet appel à la révolution, j'allais dire, elle va nous renvoyer sur la question politique, mais elle va nous renvoyer sur la question politique avec un immense champ politique, parce que honnêtement, la question n'est pas chez les citoyens, elle est aussi chez les patrons d'entreprises, c'est leur propre rôle, et qui sont pas très très au clair non plus sur leur envie de révolution. Ils parlent de baisse, mais jamais de révolution. Mais c'est une réalité, c'est-à-dire qu'en fait, faut pas juste dire que c'est le citoyen qui vote qui est idiot. C'est-à-dire qu'il y a quand même, on le sait, et on va mettre un peu les pieds dans le plat, dans ce pays, il y a beaucoup de gens qui s'accrochent à leurs privilèges. Et ces privilèges-là, aujourd'hui, font que on veut bien parler éventuellement de baisse, mais de là, de parler de révolution, oulala. C'est-à-dire que ça soit dans le secteur des aides publiques, que ça soit dans le secteur de la santé, que dans l'éducation, et j'en prends, on va prendre la longue liste, aujourd'hui, il y a plutôt des forces d'inertie que des forces d'évolution. J'en reviens à cette question de conjugaison. C'est-à-dire que c'est là où, à mon sens, la réponse n'est pas technique. La réponse, elle passe par la narration. C'est-à-dire que ce pays a besoin... Je vais aller même un peu plus loin que Jean-Hervé. C'est plus que d'un cap, d'une joie. Je pense que ce pays a besoin d'une libido économique. Je vais
l'installer. Mais oui.
Non, mais réellement.
C'est un excellent concept.
Je vais te dire, ça va rester.
Mais oui. La libido économique.
Comment faire la révolution en ayant une libido économique? Oui, alors là, je ne sais pas comme ça comment l'inventer, cette libido, mais une chose est certaine, c'est que en fait, en France, on a un petit problème aussi vis-à-vis de la lecture économique, et en particulier, on n'a pas assez eu d'enseignement de la théorie des choix publics, parce qu'en fait, ce qu'on décrit, c'est tout simplement l'entreprise, elle va bien évidemment s'attacher à son privilège. Le politicien ou le bureaucrate, celui qui a le pouvoir, lui, de toute façon, il n'existe que parce que en fait il y a une demande à son égard. Donc effectivement, il va entretenir cette relation permissive parce que de toute façon, il sait qu'il donne des privilèges, donc du coup, il sera réélu. Donc en fait, cette lecture nous explique effectivement plus facilement pourquoi en France il y a cette inertie, parce que on voit pas comment un politicien, il va pas se faire du mal volontairement, et les entreprises, pareil, elles vont plaider pour quelque chose qui va favoriser son activité, mais sans avoir évidemment de coûts. Donc ça, c'est quand même un des gros problèmes de la scène aujourd'hui politique française. Et effectivement, oui. dans ce contexte, on se dit qu'une révolution, elle aura du mal à avoir lieu, parce que qui va vouloir renoncer effectivement à son confort, à ses privilèges. En plus, c'est un pacte. C'est un pari qui est compliqué, puisque c'est un pari sur quelque chose justement d'incertain. C'est-à-dire qu'on vous dit, bon, bah, là, maintenant, on rase gratis, on fait quelque chose de nouveau pour avoir des bonnes conditions. Mais moi, aujourd'hui, qui me dit que je serai mieux qu'aujourd'hui? Donc forcément.
Et il y a toujours des gagnants et des perdants.
Donc ça explique en effet l'inertie.
Bon, Jean-Hervé, je voudrais qu'on rentre. Cette émission s'appelle Les Experts. Donc on va faire un peu d'expertise fiscale dans vos 8 propositions. Je vais les citer rapidement. Vous bougez les cotisations. Cotisations sociales employeurs, il faut les baisser. Les cotisations salariales salariés, là, vous instaurez une CSG à taux progressif. Donc, ça veut dire qu'il y a des gagnants et des perdants. Il y en a qui paieront plus cher. Impôt sur le revenu, il faut le baisser pour augmenter les salaires nets. Vous augmentez la fiscalité du capital. Vous transformez l'IFI pour le transformer sur un impôt sur la terre agricole et urbaine.
C'est du georgisme.
C'est une idée qui d'ailleurs est tirée d'un d'un petit camarade économiste tout à fait brillant qui s'appelle Tranois.
Alain Tranois.
Et quand on regarde l'évolution de ce dont on a bénéficié, moi j'en ai bénéficié, tout le monde a bénéficié, c'est la hausse des propriétaires ont vu le prix du mètre carré augmenter. Mais en fait, c'est la surface,
l'emprise au sol.
Augmenté. Donc voilà, on refait une évolution de ce truc en le rendant plus proche de la réalité des gains qui ont pu être faits. Moi, j'avais pas d'argent, et aujourd'hui j'ai un appartement. Donc voilà, c'est la vie. J'ai successivement bénéficié de toutes les hausses de prix du mètre carré.
Et une fois qu'on a augmenté les taxes sur le patrimoine, on augmente l'impôt sur les héritages aussi. Vous augmentez les taxes.
Sauf
en cas d'investissement placements.
Top. Le vieillissement, c'est pas bon. Sauf sur une chose. Qui est que la vie a une durée déterminée. On va avoir l'impact du vieillissement majeur sur le problème des héritages. Hier, j'ai vu que les Hospices de France.
Oui.
Disait, là on rentre sur sur un autre volet qui est celui de l'intergénérationnel. En réalité, il va y avoir l'énorme choc auquel on...
5 000 à 9 000 milliards de patrimoine vont changer demain, voilà, d'ici 2040.
Donc c'est évident que ça... Il faut aussi prendre le problème dans cette définition. Moi, après, on a fait cette affaire à coût constant. Mais le coût... Et là où le livre est très faible...
Non.
Je fais du marketing. Non, c'est qu'il n'y a pas de.
C'est pour le numéro 2.
Je ne dis pas du tout comment on réduit les dépenses.
Et c'est le suivant.
Vous anticipez mes questions. Ouais. Avant d'y arriver sur la question des dépenses,
c'est évident que les calculs le montrent, c'est que les transferts d'héritage vont être multipliés de manière très significative dans les années qui viennent, tout simplement parce que.
La FHF propose notamment que ça serve à financer la dépendance.
Et deuxième sujet, quand on me dit 80%, 85% des gens sont contre
exonérés.
Les trucs, 85% des gens ne sont pas concernés.
Oui. Et oui.
Donc même c'est un politicien très froussard et toi s'en rendre compte. Moi, j'ai un héritage, j'imagine tous les trois, mais 85% des Français n'ont pas.
Oui, mais n'en veulent pas. Emmanuel Macron a d'ailleurs refusé toujours de toucher les successions parce que les Français, ceux qui sont exemptés, ne veulent pas taxer. C'est l'impôt sur la mort.
Monsieur Legendre, mais c'est son opinion et j'ai la mienne. Point.
Absolument.
J'interviens sur cette question de démographie.
Une devise de sauter.
Il y a environ, ça concerne 15-20% de la population et tout ça. Maintenant, c'est toute l'histoire de la pompe parce que c'est indiqué dans le livre d'ailleurs, c'est que sur ces montants, cette grande transmission qui va brasser des milliers de milliards dans la décennie qui vient, honnêtement, les gens qui vont recevoir cet argent seront eux-mêmes des seniors déjà.
Ah oui.
C'est une vraie question. C'est-à-dire que en fait, cet apport dans l'économie ne se joue plus dans le bon timing de la vie. En fait, et c'est-à-dire le petit coup de pouce, même sur un petit héritage qui permettait à quelqu'un de financer le petit studio, la voiture, les choses comme ça, n'arrive plus dans le bon timing de la vie. C'est-à-dire que on devient tous progressivement des écureuils, avec des noisettes gentiment, et on se transmet des noisettes qui vont être stockées directement. Donc on n'alimente plus l'économie réelle. Après, je reviens sur cette notion de démographie parce que elle est à mon avis centrale. Et si tous les quatre demain on se lançait en politique et on lançait le MRF, le mouvement de la révolution fiscale, avec Jean-Hervé Lorenzi, candidat à la
magnifique
fiscale et autres. Je pense qu'il y a une notion.
Le parti de la libido fiscale.
Le parti de la libido fiscale.
Cette campagne, c'est dantesque. Okay. Ça va être formidable. La présidentielle.
Il y a une notion de discours sur lequel je pense, et je vais être optimiste, ce pays peut se retrouver. Et il faut l'assumer. On l'a vu dans le cadre, et on le voit en ce moment dans le cadre du budget militaire. C'est-à-dire que quand il y a un plébiscite. C'est-à-dire qu'on se dit, OK, on est dans une situation où le fait d'augmenter le budget militaire est quelque chose qui passe.
Donc,
ça veut dire que ce pays a des formes de conscience. Il faut lui donner de la fierté. La France va bien quand elle fait des TGV, des Minitel, des Airbus, des Ariane Espace et tout ça. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On n'arrive même pas à construire une autoroute. On n'arrive même pas à se mettre d'accord sur le fait de faire 3 km de bretelles d'autoroute. Donc, Il faut redonner des éléments de fierté à ce pays. On en a besoin, des succès. On est toujours en train de se comparer à des géants qui vont s'introduire en bourse et autres. Il nous faut des éléments palpables et concrets. Ça veut dire miser, faire des choix, mais faire des impasses aussi. C'est-à-dire dire, on va faire la course du quantique, mais pendant ce temps-là, on ne fera peut-être pas la course du logiciel pour faire les réunions, pour remplacer Teams, parce que c'est une catastrophe et on ne sait pas le faire.
Mais Google l'État s'en occupe voilà, de oui, ça, il y a un projet public pour ça.
Mais après, au-delà de cette fierté, il y a un autre aspect qui est tout aussi important, c'est que je pense que le dossier de la démographie est un élément essentiel sur lequel le pays peut se retrouver. C'est-à-dire que vous prenez le métro, vous prenez le transport, vous asseyez à une terrasse de café, cette conversation, je l'entends autour de mes tables, plusieurs fois par semaine, de gens qui disent oui, il va falloir que je voie avec mon papa pour trouver une aide à domicile et tout ça. C'est quelque chose qui croit toute la société le traverse. Et aujourd'hui, construire un discours, une économie et une révolution fiscale pour dire comment on s'en sort, comment on va gérer ces situations-là, c'est quelque chose sur lequel on peut bâtir.
Est-ce que je peux juste rajouter un chiffre ? Les aidants non professionnels, oui. 11 millions. Mmh. 11 millions de Français, du meilleur ou d'une autre, aident un parent, un ami qui se trouve...
11 millions, c'est colossal.
11 millions, c'est absolument géant, c'est géant. Donc ce pays est très curieux, il est à la fois très exaspérant par son refus de changer quoi que ce soit, et à la fois aidant, vous savez qu'on a le pourcentage le plus important de financement de toutes les grandes causes. Oui. Enfin bon, je veux dire, c'est un drôle de... Un
pays, il faut le prendre
tel qu'il est, et il faut le faire bouger. Moi, je suis d'accord. Hein. La démographie est absolument majeure. Alors, derrière, il y a l'histoire des donations. Arriver à faire que cet argent...
Circuler le capital. Circule.
Mais oui.
C'est la génération suivante, Nathalie.
Bah oui, c'est d'ailleurs effectivement plutôt que même la taxation sur l'héritage. Je pense que ce qui est important, c'est effectivement de pouvoir le faire, enfin éventuellement de favoriser ces transmissions intergénérationnelles. Il est vrai que les personnes âgées, pour effectivement moi aussi en avoir un proche de moi, très âgé, on en a deux, leur préoccupation, c'est aussi la raison pour laquelle ils ont pas donné tout de suite, c'est qu'en fait ils ont peur du coût qui nous imposerait.
Aussi.
Donc il faut bien voir
bien
que
sûr,
c'est
le capital est aussi consommé dans les dernières années.
Et ça, oui. Souvent, certains en fait le sous-estiment, mais c'est vrai que chez eux, c'est une préoccupation parce que d'abord ils veulent rester chez eux, et deuxièmement, si jamais ils doivent effectivement dépenser plus parce qu'ils ne peuvent plus tout faire eux-mêmes et qu'il faut effectivement avoir des aides, ils ne veulent pas être un poids pour nous. Alors c'est vrai que du coup, on va sans doute hériter beaucoup plus tard et ils ont du mal donc à passer la main aux jeunes générations, pas parce qu'ils ne veulent pas, mais par crainte aussi.
Oui, oui.
Il ne faut pas le sous-estimer cet aspect-là.
Si je résume ces 8 propositions-là, c'est quand même moins de fiscalité sur le travail et un peu plus sur le capital.
Non. C'est une répartition un peu différente. Prenons le cas de la CSG, parce que celui-là, il me fascine. Vous savez que tout le monde est à 9,2. C'est-à-dire que quand on est au SMIC, il y a la chose la plus stupide.
C'est une flat tax.
Il y a 50% des Français qui payent l'impôt, le truc.
Merci de le rappeler.
C'est idiot. Les gens, ils payent la TVA et la CSG. Toute personne qui travaille, TVA, toute personne...
Il y a une flat tax sur le travail qui s'appelle la CSG, y compris
évidemment
les chômeurs
avec
la CSG.
Des prélèvements sur les revenus des gens. Donc, quand on prend sur un SMICAR, on prend les 9,2, ça fait quand même pas très loin d'un mois de rémunération. Alors même si le SMIC augmente, etc., mais enfin, il est quand même pas très important.
Il n'y a quasiment plus de charge sur le SMIC.
Fouché. Donc, il faut te le rendre progressif. Deuxième sujet, je suis pour qu'on prélève sur les retraités aisés. Mais ça, j'ai vu avec bonheur que ça commence à répandre partout. Je veux dire, il n'y a pas de raison.
Sauf qu'on n'est pas. Tout a été écarté lors du dernier projet de loi de finances.
La décision la plus stupide.
C'était sur la table. Et
la décision la plus stupide qui a été faite dans ce budget, c'est diminuer le financement de l'apprentissage avec le fameux effet d'aubaine des économistes qui expliquaient que c'était plutôt
des
élèves. Enfin bon, je trouve que c'est quand même mieux que des gamins.
Ça a permis à beaucoup de gens de faire des écoles payantes.
Voilà.
Oui, en école de commerce, on voit très bien que des jeunes étudiants qui n'auraient pas postulé ont postulé parce qu'il y avait l'apprentissage.
Et ça, on l'a raboté. Et par contre.
Et par contre,
je veux dire,
on a protégé et on terminera sur cette nouvelle exceptionnelle, c'est la bêtise la plus absolue. On a protégé 10% d'abattement pour les retraités aisés qui
ont été transformés
par cette, l'intelligence de cette mesure. Et je dois dire que lorsque je m'étais déclaré pour l'harmonisation de la CSG des retraités avec ceux les actifs, je dois dire que
c'est... Parce que tout le monde ne paye pas 9,2.
Oui.
Les retraités ont une CSG préférentielle.
Oui, hein. Oui, et bien le...
De 4 à 7%.
Je vais dire, j'avais reçu, et je ne suis rien dans ce dispositif, mais j'avais reçu des menaces de mort. Tu nous as trahis.
Ah oui.
Ouais, ils sont complètement fous. Non, les mecs, les retraités...
Ah oui, touche attendre. Pas au Grisby.
Le retraité aisé...
Non, on présente pas.
Le retraité aisé n'est pas que raisonnable. Ah oui. Et pas totalement...
Mais pas forcément quiétiste.
Dans la libido économie. Hein.
Très bien. Ben, ce sera le mot de la fin. Je rappelle votre ouvrage, Jean-Hervé Lorenzi, votre co-auteur Alain Wimmer, Guerre et paix entre profit et salaire pour une révolution fiscale. Voilà, il sort la semaine prochaine aux éditions Odile Jacob. Merci Jean-Hervé, merci Nathalie Janson, merci Ludovic pour cette émission passionnante, disponible en podcast et replay sur l'application BFM Business et toutes les plateformes de podcast. Tout de suite, vous retrouvez BFM Entreprise avec Nathalie Gondouin. Quant à nous, on se retrouve demain, même heure, même endroit, 9h30, 10h30, en direct sur BFM Business. Très bonne journée à toutes et à tous.
Les experts, débats et controverses sur BFM Business.